L'Éden de 7 ans numéro 147 questions et réponses deuxième partie réunion des ministres de décembre-janvier, le 7 janvier 2023 Brian Kozurek. Pasteur, Amen. Inclinant la tête dans un mot de prière. Père miséricordieux, nous te remercions encore une fois, Seigneur, pour la continuation de ta parole. Père, nous nous attendons avec beaucoup d'impatience de tes glorieuses réunions, à ce que nous allons avoir. Et ainsi, Père, nous te demandons simplement de nous préparer pour elles. Sois avec nous maintenant et peut-être que nous pensons vraiment dans nos esprits à ce que tu as fait en cette heure. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Citation pour la question numéro 3. Aller au-delà du camp 19 juillet 6082. Ceux qui sont vivants et qui demeureront jusqu'à la venue du Seigneur n'empêcheront ou n'entraveront. Le mot Esther, ceux qui sont endormis, pas morts. Non, les chrétiens Néhémie meurent pas. Ils prennent juste un peu de repos, voyez-vous. C'est Esther tout. Oh, là là. Et la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, apparaissent à beaucoup. Et tout d'un coup, il vous arrive de vous tenir là et de regarder, et, eh bien, il y a un frère, et vous savez que ce Néhémie sera pas long. En quelques minutes, nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil. Et ensemble avec eux, nous serons portés disparus sur la terre, seront enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. D'où la question numéro 3, la façon dont le prophète explique le processus de résurrection dans cette citation. La scène semble se dérouler en dehors de la tente. Ai-je tort? Réponse numéro 3, voulez-vous dire en dehors de la tente? Ou depuis la tente? Autrement dit, provenant de la tente. Il me semble que si la résurrection est universelle, alors la résurrection des morts se produit partout. Mais l'ange a dit à frère Branham, lorsqu'il a vu la tente dans la vision, observe la résurrection et ce qui se trouve là-dedans. Ainsi, ce sont ces choses que nous voulons différencier. Nous, les vivants, Néhémie ressuscitons pas. Mais nous recevons le changement du corps dans cette petite pièce. Et ceux qui sont ressuscités Néhémie peuvent pas être rendus parfaits sans nous. C'est ce que la Bible enseigne. N'oubliez pas qu'il y a des saisons. La première saison à Esther le cri, qui est une saison beaucoup plus longue que la seconde, qui est la saison de la voix ou de la résurrection, de 33 ans et demi comparé à 40 jours. Ensuite, la trompette, qui prendra très peu de temps. Le rassemblement doit d'abord avoir lieu pour que l'enlèvement ait lieu. Maintenant, Néhémie vous sentez pas mal acquis de Néhémie pas avoir l'esprit affûté? C'est ce qu'il est en train de faire par ces belles questions. Citation pour la question numéro 4, acte 8.39. Mais quand il fut remonté de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe, et le nuque Néhémie le vit plus, et il continua son chemin se réjouissant. 1. Hébreux 11.5 Par la foi, Enoch a été enlevé afin qu'il Néhémie voit pas la mort, et on Néhémie le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait ce témoignage qu'il était agréable à Dieu. D'où la question numéro 4, quelle est la différence entre ces deux expériences? Réponse à la question numéro 4, rappelez-vous, l'un a été enlevé d'un endroit à un autre et l'autre a été enlevé de la terre au ciel. L'un a été enlevé, ce qui signifie qu'il a été transporté dans un lieu plus élevé, tandis que l'autre a été transporté à un autre endroit terrestre. Alors, pourquoi avons-nous les deux exemples? C'est Esther parce qu'Enoch et Esther un type des saints qui sont enlevés, tandis que Philippe et Esther un type de la façon dont nous, les vivants, et les morts qui sont ressuscités universellement, pourront venir à la tente. Et bien sûr, ainsi que les gens qui viennent du monde entier. Dieu Néhémie dépend pas de quelqu'un qui a un avion. Il le fera lui-même. Je Néhémie sait pas si c'est vrai ou pas, mais c'est logique, Sinon pourquoi Dieu nous le montrerait-il en type? Rappelez-vous, Philippe était différent d'Enoch en ce sens qu'Enoch est monté, et que Philippe est parti. Ok, nous allons partir, nous rassembler dans la tente, puis monter. Ok, vous avez donc deux choses ici. N'oubliez pas que ce n'est qu'un modèle. Dieu fait les choses selon des modèles. Et donc nous voyons le modèle. Citation pour la question numéro 5. Tournez les regards vers Jésus. 29 décembre 63 soir p. 16. J'ai été prévenu de ceci, que bientôt, à l'heure actuelle, Sester arrivait simplement afin qu'il puisse identifier sa présence parmi vous. Voyez-vous, mais Néhémie ne sera pas utilisé puissamment. Il parle du troisième pull. Tant que ce conseil Néhémie commencera pas à exercer de pression. Et quand ce sera le cas, les pentecôtistes et autres, ils peuvent imiter presque tout ce qui se fait. Mais, quand ce moment-là viendra, quand la pression viendra, alors, ce que vous avez vu temporairement, vous le verrez se manifester dans la plénitude de sa puissance. D'où notre question numéro 5. Cela signifie-t-il que l'épouse goûtera à la tribulation? Réponse à la question numéro 5. Et la réponse est un bref et retentissant non. Notre prophète nous a enseigné que l'épouse Néhémie passe pas par la tribulation, mais comme le dit la citation que vous avez donnée, la pression nous préparera et ensuite elle passera à la tribulation, après notre départ. La tribulation vient du mot rétribution, et il n'y a rien pour lequel Dieu doit punir l'épouse. Elle est parfaitement justifiée. Il l'a déclarée exempte de culpabilité. Autrement dit, la Bible dit, il se peut que vous l'ayez fait, mais Dieu Néhémie vous en donne tout simplement pas le crédit. Dans les questions et réponses COD 30 août 64 FP, 46392. Quelqu'un pose la même question à notre prophète, l'âge de l'église se termine et Sester est un, l'épouse est appelée, sommes-nous déjà entrés dans la période de la tribulation? Il répond, non, 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 j'aurais aimé avoir plus de temps là-dessus. Voyez-vous, l'épouse, lorsqu'elle sera enlevée de l'église, alors l'âge de l'église prendra fin. Laodicée s'enfonce dans le chaos. Sester, ce dans quoi le monde entre maintenant, elle est soumise à la pression et cela conduira au chaos total. Mais nous n'en sommes pas encore là. Comment je le sais? Il y a encore des gens qui dénoncent le, deux, gouvernement et montrent au public leurs erreurs. Il y a donc des gens qui s'expriment. Bientôt, ils n'auront plus cette résistance. Rappelez-vous, Dieu a fait sortir Moïse d'Égypte et cela n'a laissé aucune résistance à Pharaon. Ok, c'est Esther la même chose ici. Ils feront ce qu'on leur dira de faire, ou ils seront tout simplement tués. Ils en arrivent au point où ils disent simplement, nous n'aimons le tolérerons plus. Vous êtes fait. C'en est fini de vous. L'épouse va dans la gloire, et la période de tribulation s'installe. Donc, si elle s'installe, ce n'est pas du tout une chose soudaine, elle est graduelle, comme la CDB, Centre des Affaires, Pôle financier, note du trad. Et les scores sociaux parce que Sester tout ce qu'il leur faudra pour contrôler les dépenses sur la Vierge endormie pendant 3 ans et demi pendant qu'Israël reçoit sa prophétie. Alors la tribulation s'abat sur Israël. Sester donc une prise de contrôle progressive. Ils Néhémie peuvent pas le voir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et alors vous Néhémie, pouvez pas arrêter ce qui arrive et puis vient la bataille d'Armageddon qui détruit tout. Et il semble que ce soit la raison pour laquelle Poutine vient de rencontrer les autorités de Dubaï ou de l'Arabie Saoudite et puis le président de l'Iran vient de se rencontrer avec Poutine pendant toute une journée jusque tard dans la nuit. Les choses sont encore au stade de planification. Stade de planification pourquoi? L'Armageddon? Ok. Poutine dit, regardez, Israël a des armes nucléaires. Vous, au Moyen-Orient, Vous n'avez pas d'armes nucléaires. Nous avons des armes nucléaires. Nous allons vous donner des armes nucléaires. Nous allons faire ce que les États-Unis ont fait et nous allons installer des armes nucléaires dans vos pays. Et donc tout est prêt, vous serez en mesure de dire, et Israël, si vous employez vos armes nucléaires contre nous, nous emploierons nos armes nucléaires contre vous. Ok? Voilà ce qu'est l'Armageddon. Tout le monde sort les armes nucléaires et fait tout exploser. Et puis, l'épouse revient avec l'époux pendant 1000 ans. Le règne du millénium. Après cela vient le jugement du trône blanc. Après cela viennent les nouveaux cieux et la nouvelle terre et la nouvelle ville qui descend du ciel d'auprès de Dieu. L'éternité et le temps se confondent. Pourquoi avez-vous une nouvelle terre? Pourquoi avez-vous un nouveau ciel? Eh bien, parce que Dieu supprime tout ce qui n'est faisait pas partie de sa parole. Et puisque la terre a été maniée et manipulée et en gros détruite par l'homme, Dieu dit, ok, je vais la nettoyer. Il n'est l'efface pas, mais il l'enflamme, la nettoie et nous y installe. Comme dans le millénium. Puis il fait descendre un nouveau ciel et une nouvelle terre. Comment puis-je vaincre 25 ou 63 mètres un p, 36 il voit que l'Église doit passer par la période de tribulation pour sa purification. Je dis que le sang de Jésus-Christ purifie l'Église. Vous voyez? Elle n'a pas besoin d'eux. Je crois que l'Église passe par la période de la tribulation, l'organisation de l'Église, mais pas l'épouse. Choisiriez-vous une femme que vous deviez purifier avant de l'épouser? L'épouse de Christ Esther choisie, et Esther élue, et Esther l'épouse de Dieu, l'épouse de Jésus-Christ. Ainsi s'achèvent nos questions venant d'Afrique, et les questions suivantes ont été soulevées lors d'une rencontre les frères de l'Amérique du Sud. Mais avant de poursuivre, permettez-moi d'abord de dire que je suis très fier des frères qui se réunissent autour de la parole. À la fois en Amérique du Sud et en Afrique, c'est ce que Dieu veut que vous fassiez. En fait, nous avions hier 58 frères connectés dans le monde entier. 58. C'est plus de personnes que nous avons, 3, à l'Église. Et ils sont tous des ministres. Très bien. Ou pour la plupart. Ainsi, nous avions 58 ministres. Et je suis extrêmement fier de ce processus par lequel ils passent. Et je suis très honoré que vous m'apportiez vos questions, même si je me sens indigne d'y répondre, mais je m'y sens contraint par le Saint-Esprit. Oh, vous dites, eh bien, qui êtes-vous? Eh bien, je suis celui qui était assis aux pieds de frère Livel. Il était assis aux pieds de frère Branham. Je pense donc que je suis celui qui a été fidèlement enseigné. Question numéro 6. Où était le prophète quand la nuée Esther apparut en 1963? Je crois qu'il a dit qu'il faisait du repérage pour la chasse avec quelques frères. Je sais qu'il y a des frères qui croient qu'il aide un homme à sortir d'une peine de prison à vie au Texas. Mais rappelez-vous, 6 mois avant que cela n'ait lieu, il a eu une vision des anges qui descendaient. Donc je n'ai m'inquiète pas de savoir à quel moment cela s'est fait. Je crois à sa parole face à celle des sceptiques. Il était confirmé, il n'aimait le son pas. Or s'est seulement une poignée d'heures de voyage entre le Texas et Tucson, alors il aurait pu parler au juge. Puis ils ont eu le procès, auquel il n'était pas obligé d'assister. Puis Lester rentrait chez lui en voiture et Lester allait en éclaireur pour la chasse. Cela pouvait se faire dans les heures qui suivent. Peut-être même moins de 12 heures. Question numéro 7. Y a-t-il une citation qui relie la nuée apparue en 1963 avec le visage du Christ d'Hoffmann qui nous permet de la manipuler et de l'unifier au fur et à mesure qu'il se combine? Eh bien, oui, il y a une citation. Mais nous ne devrions pas utiliser de logiciel pour mélanger les deux. L'une est une photo, image, de Dieu dans les nuées. Et il a effectivement dit, tournez la photo de côté et vous verrez Christ. Mais la peinture, la tête de Christ d'Hoffmann, en 1933 est faite par l'homme. L'UNESTER, une photo réelle et dans laquelle il y a beaucoup, beaucoup de visages de personnes dans la nuée. Et l'autre Esther, la représentation par un homme de ce à quoi ressemble Christ. Et il n'y a pas de visage dans ses cheveux-là. Honte de lui. 11 juillet 65 p. 26. Voyez-vous la photo l'autre jour? Comment il a retourné cette photo de côté là-bas? Et l'image même de ses 7 anges étant élevée, tournez-la vers la droite. Il y a là le visage du Seigneur Jésus, qui regarde encore vers la terre. Vous vous souvenez quand j'ai prêché les 7 âges de l'Église? Je n'ai aimé comprenais pas pourquoi Jésus se tenait là avec du blanc au-dessus de sa tête. Il était un jeune homme. J'ai repris cela dans la Bible. Esther dit, il Esther venu vers l'Ancien des Jours, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine. Jésus n'avait que 33 ans et demi lors de sa crucifixion. J'ai appelé frère Jack Moore, un théologien. Il a dit, oh, frère Branham, Esther Jésus dans sa face glorifiée. Il a dit, après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il s'Esther changé en cela. Cela sonnait bien pour un théologien, mais ça n'Esther pas bien passé. Ça n'a tout simplement pas touché quelque chose. Je suis monté là-bas et j'ai commencé dans ce premier âge de l'Église. Là le Saint-Esprit l'a révélé. Eh bien, vous l'avez bien compris dans vos âges de l'Église. Je suppose que les livres vont sortir très bientôt maintenant. Tous les détails de cela. Et cela montrait que Jésus était le juge. Il y a une perruque blanche qu'ils avaient l'habitude de porter. Il mettait une perruque et la portait en tant que juge. L'Angleterre le fait encore aujourd'hui. Quand vous avez l'autorité suprême. Et le fait de tourner de côté cette photo. Le voilà. Ses cheveux noirs, vous pouvez les voir sur le côté de sa barbe, et la perruque blanche. Il Esther la dernière autorité, il Esther l'autorité suprême. Même Dieu l'a dit lui-même, celui-ci Esther mon fils bien-aimé. Écoutez-le. 4. C'est Esther le lever du soleil 18 avril 65 mètres c'est à bien. Si vous tournez l'image comme ceci et que vous regardez, et vous pouvez probablement le voir depuis l'assistance, c'est Esther Christ. Voyez-vous ses yeux qui regardent ici aussi parfaits que cela pourrait l'être, portant la perruque blanche de la divinité suprême et du juge de tous les cieux et de toute la terre? Voyez-vous, quand Jésus avait 33 ans, il n'était pas le juge de toute la terre. Mais quand il Esther descendu en 7 heures, il l'était. Pouvez-vous voir ses yeux, son nez, sa bouche? Il suffit de tourner la photo à partir de là, de la façon dont il l'avait prise, de cette façon, la façon dont elle est censée être. Et vous? Pouvez-vous les voir? Il Esther le juge suprême, il n'y en a pas d'autre que lui. Et c'est Esther encore une fois une identification parfaite, une confirmation que ce message est Esther la vérité. Il est Esther vrai. Et faisant de lui, non pas une troisième personne, mais la seule personne avec le blanc. Vous voyez la partie sombre. Son visage. Sa barbe et ses yeux. Et remarquez, il regarde. C'est Esther de lui que vient cette lumière qui brille sur le côté droit vers lequel il regarde. Et sur la croix. C'est Esther dans cette direction qu'il regardait. À droite, où il a pardonné le pécheur. À la lumière de sa résurrection, nous allons toujours de l'avant en son nom. Eh bien, frère Vell n'a jamais aimé la nuée et la tête d'Hoffman combinée, parce que l'une Esther crise dans les nuées, et l'autre Esther une interprétation faite par l'homme. Et frère Branham a dit dans de nombreux sermons, pourquoi prendre un substitut alors que les cieux sont remplis de l'authentique? Si j'avais un choix à faire, j'aurais cette photo dans mon église. Frère Brian montre la photo de la nuée, note de l'éditeur, plutôt que la tête de Christ d'Hoffman, que nous avons derrière, parce que c'était une chose faite par l'homme. Frère Brian montre la photo de la nuée, note de l'éditeur, c'est Esther fait par Dieu. Et si vous regardez la vraie photo, vous verrez, à l'aide d'une loupe, Des millions de visages dans cette nuée. Je le sais. Je les ai vus. Frère Caldwell était allé voir le docteur McDonald, qui avait rassemblé les photos, et il a pris une loupe et a vu des visages de gens. Il a donné son exemplaire à Livell. Je l'ai vu chez frère Livell avant qu'il n'ait mis décède. Il se peut que vous l'ayez vu. Je n'ai mis sais pas si vous étiez là quand il l'a fait sortir. Maintenant, les sceptiques de ce message vont essayer de dire que cela n'est Miss Esther pas fait de cette façon, et ils disent que la nuée a été formée par un missile qui avait dévié de sa trajectoire, et donc il a été lancé par l'armée américaine. Mais si vous remarquez, même le docteur McDonald dit qu'il y avait deux nuées, n'est-ce pas? Il a dit que l'une d'elles mesurait 26 000, 41,84 km sur 30 000 de large, 48,28 km, et qu'elle se dirigeait vers le Nouveau-Mexique. Il a dit, l'autre, elle est juste arrivée. Elle a duré quelques heures. Elle n'est mis faisait que 4 000, 6,43 km environ. Donc, vous voyez, Satan et Esther toujours jumeaux. Alors Satan crée une diversion, pour que les gens regardent cette nuée. Disent, oh, c'est Esther juste un missile, au lieu de regarder la nuée originelle, qui a été faite par Dieu. Mais si vous remarquez bien, la nuée originelle c'est Esther élevée et Satan a dû essayer de contrarier l'esprit des gens, alors il leur a fait lancer un missile, pour détourner notre attention de ce que Dieu faisait et a ainsi créé un jumeau, qui avait en gros la même forme, un panache. Mais le deuxième panache Esther beaucoup plus petit que la nuée de Dieu. Peut-être seulement environ 4 miles de large, 6,43 km. Mais, voyez-vous, il y a toujours des jumeaux autour des choses de Dieu, et il a donc, 5, créé un jumeau pour détourner leur esprit du vrai. J'ai fait ressortir que le docteur McDonald, qui a enquêté sur la question, a expliqué dans son rapport qu'il y avait deux nuées ce jour-là. Et il a dit que celui qui mesurait 26 000 de large, 41,44 km et 30 000 de large, 48,28 km n'était pas la même que la nuée de Panache, qui résultait du missile qui a dévié de sa trajectoire. C'était dans son rapport. J'ai prêché là-dessus jadis quand le groupe croyait au signe a fait part de sa fausse compréhension, et je me suis dit que j'allais simplement remettre les pendules à l'heure. Ce sermon Esther beaucoup plus détaillé que cette courte déclaration que je viens de faire ici aujourd'hui, mais c'est Esther dans l'un de mes sermons d'il y a plusieurs années. Il vous faudra donc lire ce sermon afin d'obtenir tous les détails. C'est Esther le lever du fils numéro 18. Du 13 novembre 2016. Question numéro 8, à la lumière du message et de la Bible. Esther, ce que le placement des peintures dans l'église Esther correct? Par exemple, la nuée ou la colonne de feu au-dessus du prophète, la Bible dit, vous n'y ferez pas d'image, vous n'y ferez pas d'image, mais elle n'a jamais dit que Dieu n'y peut pas faire d'image. Sinon, les hommes qui sont créés à l'image de Dieu, n'y seraient même pas autorisés à entrer dans le sanctuaire. N'est-ce pas? Je sais que certaines personnes deviennent légalistes à ce sujet, mais cette photo, image, n'est-elle pas faite de pierre? Elle a été créée par Dieu, lorsque la lumière a frappé l'objectif. Lévitique 26.1 Vous n'aimez, vous ferez pas d'idole, et vous n'aimez, vous dresserez pas d'image taillée, ni de statue, et vous n'érigerez aucune statue ou image de pierre dans votre pays, pour vous prosterner devant elle, car je suis le Seigneur votre Dieu. Alors, si vous avez des gens qui se prosternent littéralement devant ces photos-ci ou devant ces photos-là, ou qui les adorent, c'est Esther faux. Mais nous devrions savoir qu'il vaut mieux n'aimer pas le faire. Ce n'est pas différent que d'avoir des photos de votre pasteur, ou de frère Branham, ou de frère Vell dans votre église. Nous n'aimer les adorons pas, mais nous les reconnaissons par nos photos comme un rappel des hommes qui ont combattu le bon combat. Genèse 1.27 Et Dieu créa l'homme à sa propre image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Et si Dieu nous permettait de le prendre en photo, je suis sûr que tout le monde voudrait que tout le monde le voie. Le prophète a dit, Dieu m'a permis d'être pris en photo avec lui. Dieu est donc l'auteur du selfie. L'homme l'a simplement perverti. Alors, la prochaine fois que vous voudrez prendre un selfie, assurez-vous que Dieu est dans votre photo. Très bien. Je dis cela sur le ton de la plaisanterie, mais c'est juste pour que vous le sachiez. Question numéro 9. Est-ce que le cavalier sur le cheval jaune le chevauche-t-il en ce moment? Et s'il le chevauche déjà, depuis quand le chevauche-t-il et jusqu'où le chevauchera-t-il? Réponse à la question numéro 9. Le cavalier est passé d'un cheval blanc, qui était un pouvoir religieux, puis à un cheval roux, rouge, qui signifiait faire la guerre, qui est un pouvoir politique, puis à un cheval noir, qui représentait la mort, l'âge des ténèbres, qui est un pouvoir national. Et enfin à un cheval de couleur bringée, qui est une couleur mélangée. Le jaune est une mauvaise traduction. Dans votre Bible, il devrait être traduit par Abigarado, en espagnol. Note du trad. Qui est traduit bigarré, mais le meilleur mot est mezclado, en espagnol, qui signifie mélanger. 6. Eh oui, il chevauche toujours un cheval de couleur mélangée, religieux, national et politique, comme le signifie la tiare ou la triple couronne que porte le pape. Il est passé du noir, ou de la mort dans les âges de l'Église, la période de la Réforme, et est passé au mélange de couleurs quelque temps avant la Première Guerre mondiale. Il chevauchera ses pouvoirs jusqu'à ce que la tribulation prenne fin et qu'il soit détruit. Ok, c'est ce que ces couleurs représentent. Question numéro 10, où est ce que les trois questions de Matthieu 24.3 trouvent-elles une réponse dans la Bible? Réponse à la question numéro 10, n'oubliez pas que la première question n'est pas la même que les questions 2 et 3. La première question est en réaction à ce qu'il leur a dit que les pierres du temple seront toutes renversées. Cela a eu lieu en 70 après Jacques lorsque Titus a envahi et brûlé le temple, puis afin de glaner tout l'or qui était incrusté dans les murs, il a dû retourner chaque pierre afin de glaner ce qui était fondu dans les fissures entre les pierres. Cela répond à la question de savoir quand ces choses arriveront-elles? Mais ils ont ensuite posé deux autres questions. Les deux traitent de sa parousia. Matthieu 24.2 Jésus leur dit, Néhémie voyez-vous pas toutes ces choses? En vérité, je vous le dis, il Néhémie restera pas ici pierre sur pierre, qui Néhémie soit renversé. Vous voyez, Titus a accompli cela. Quand il a brûlé les murailles, il voulait prendre tout l'or. Alors, ils ont déterré les pierres, et les ont renversées, pour y trouver un peu d'or. 3. Et comme il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier, et lui dirent, dis-nous, quand ces choses arriveront-elles? C'était la question numéro 1. Et quel sera le signe de ta parousia? C'était la question numéro 2. Et de la fin du monde? C'était la question numéro 3. Maintenant, la question numéro 2 était, quels sont les signes de ta parousia? Jésus leur énumère donc les 52 signes et événements qui s'accomplissent lors de sa parousia. Puis Paul ajoute à cette liste, ainsi que Jean et Jacques. Et enfin Pierre. Il y en a 88 en tout, donc 84 se sont déjà produits. Et comme frère Branham l'a dit, vous avez vu votre dernier signe. Ainsi, tous les signes que nous verrons dans ce corps sont accomplis, et les quatre autres se produiront dans une autre condition, la résurrection, autrement dit, sous la voie, le changement de corps, l'enlèvement, et ensuite la destruction finale alors que Dieu quittera ce monde avec la destruction finale de la terre, ce qui est la dernière question, la question numéro 3. Qui est le dernier signe de la question qu'ils ont posée, qui se produit lors de sa parousia? Qui est leur troisième question? Question numéro 11. Est-ce ce que le tremblement de terre, qui a provoqué l'effondrement de la Californie, est-ce lié à la résurrection des saints? Et rappelez-vous, le Japon a subi un tremblement de terre de 7,8 de magnitude, il y a quelques jours à peine. Ainsi, ils en ont eu un certain nombre, 7,6 et 7,8 de magnitude. Ils se préparent donc à avoir une grosse éruption. Bien sûr, toute cette eau viendra par ici et il a dit que cela détruira la Californie. Rappelez-vous, ce qui s'est passé dans l'alpha doit se répéter dans l'oméga. C'est ça le schéma. Et à l'époque de Jésus, Matthieu 28 nous dit qu'il y eut un grand tremblement de terre, lorsque Jésus fut ressuscité des morts. Alors oui, il faut que cela se répète, Matthieu 28.1 à la fin du sabbat, comme l'aube commence à poindre vers le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car l'ange, 7, de l'Éternel descendit du ciel, et vint, roula la pierre de la porte, et s'assit dessus. 3 Son visage était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 4 Et par crainte de lui, les gardiens tremblèrent, et devinrent comme morts. 5 L'ange prit la parole et dit aux femmes, Néhémie, craignez point, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. 6 Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'a dit. Venez, voyez l'endroit où le Seigneur était couché. 7 Allez vite, dites à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts, et voici, il vous précède en Galilée, là vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Vous savez, Jésus va en Galilée, et en chemin, il s'arrête à Emmaüs. Et il prend quelques disciples et il fait quelque chose, et tout d'un coup, il se rend compte qu'il parle à Jésus. Maintenant, pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'ils étaient dans son livre de vie avant la fondation du monde. S'ils n'étaient pas dans son livre de vie, Néhémie serait pas venu, d'accord? Néhémie serait pas là de toute façon. Donc, sur base du fait que l'alpha devient oméga, et que le premier ministère est le même que le dernier, tout comme le grand tremblement de terre a été la séparation entre son ministère avant résurrection qui a duré 33 ans et demi et a causé son œuvre ou ministère court et rapide, et son ministère après résurrection de 40 jours. Il y a eu un grand tremblement de terre qui a séparé les deux, ce qui a entraîné la deuxième partie du ministère. Nous sommes donc à la recherche d'un grand tremblement de terre, pour entraîner la deuxième partie. Donc, nous devrions nous attendre à un grand tremblement de terre, qui inaugurera et précédera William Branham, et qui sera la ligne de séparation entre ses plus de 33 ans de ministère et ensuite son ministère après résurrection, qui sera dans une tente. La douzième et dernière question. Frère Branham nous a parlé d'un Israël naturel et d'un Israël spirituel. Où est-ce l'Israël spirituel aujourd'hui? Réponse à la question numéro 12. De même qu'il y a eu 2 millions de personnes qui ont quitté l'Égypte sous la conduite de la colonne de feu, il y a aujourd'hui 2 millions de personnes qui suivent cette même colonne de feu aujourd'hui. Et il n'y avait que 2 personnes qui ont réussi à traverser. Josué et Caleb. Et puis ceux qui avaient moins de 20 ans à Kadesh Barnéa. Rappelez-vous, Moïse, qui était le prophète sous l'autorité de cette colonne de feu, était parti, tout comme notre prophète Esther partit. Il n'a pas eu l'occasion d'y entrer avant la montagne de la transfiguration. Ainsi, presque tous ceux qui avaient plus de 20 ans quand William Branham était ici, qui sont les gens du message originel, sont morts et seuls ceux qui avaient moins de 20 ans à ce moment-là y entreront. Si vous lisez la série Israël et l'Église, vous verrez ce qui est arrivé à l'Israël physique là-bas, pour savoir ce qui est arrivé à l'Église en ce jour-ci. C'est une belle comparaison. Et vous verrez que l'Église s'est effondrée avec le même genre d'épreuve qu'à l'époque, mais rappelez-vous, c'est le même pilier de progrès à l'époque, qui est ici maintenant. mais il y aura des vainqueurs dans cet âge-ci comme il y en avait aussi à l'époque. Inclinons simplement la tête dans la prière. Père miséricordieux, nous savons que c'est un genre de court sermon aujourd'hui, mais j'en suis heureux, à cause du temps qu'il fait et tout. Mais Seigneur, sachons aussi que nous avons répondu à ces questions du mieux que nous pouvions, nous aurions pu entrer dans les détails, mais nous n'avons pas besoin de détails, nous avons juste besoin de ta vérité. 8. Ainsi, Père, maintenant nous tournons l'ordre du service à celui de la communion et nous te demandons de préparer nos cœurs à la recevoir. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Copyright Grace Fellowship Tabernacle, janvier 2024. Veuillez adresser toute correspondance ainsi que vos questions et commentaires au sujet de ce site internet en anglais à briancocourt@yahoo.com. 9.